Rhum 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Nous sommes bien entendu avec Raphaël et Hakim.
Salut.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses au programme. Dans la première partie, on va parler du film 300, une nouvelle version.
Une suite au film, au tout premier film de Zack Snyder, qui là est producteur et qui date déjà d'il y a 6 ans, 7 ans. Voilà, ça annonce le renouveau de Frank Miller qui revient, puisque Sin City 2 sortira au cours de l'année 2014.
Alors Raphaël, toi tu nous parleras un petit peu du film sur la créatrice de Mary Poppins, c'est ça ?
Oui, exactement. Et dans L'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, qui est assez surprenant.
D'accord. Dans une deuxième partie, alors le duel débat aujourd'hui, ça va être autour
de Diplomatie, donc le nouveau film de Volker Schlöndorff, donc grand metteur en scène qui a gagné la Palme d'Or à l'époque face à Apocalypse Now.
Non, ex aequo, pas face.
Ex aequo. Et en 79, donc un film assez attendu quand même, avec un beau face-à-face. Oui.
Et en dernière partie, on reviendra un petit peu sur les grands films un peu qui ont traité de l'occupation, de la résistance en France.
Mais même les films par
Et aussi, voilà, certains films qui ont été même réalisés pendant l'occupation en France. Donc, on attaque avec Raphaël qui va nous parler justement de ce film autour de Walt Disney et de la créatrice de Mary Poppins.
Oui, dans L'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, qui est un mauvais titre en français, qui s'appelle en VO Saving Mr. Banks, hein, c'est un bien meilleur titre vis-à-vis de l'histoire, qui retrace effectivement le parcours de la créatrice de Mary Poppins, Pamela Travers, qui se fait entre guillemets harceler par Walt Disney depuis une vingtaine d'années pour adapter au cinéma son fameux livre qu'est Mary Poppins. Disney est fan du livre par rapport à ses enfants, il avait fait la promesse à ses filles de l'adapter un jour au cinéma. Et le problème, c'est que cette femme refuse catégoriquement toute adaptation de son livre. Et au début du film, elle est un peu prise à la gorge financièrement. Donc, elle est obligée d'aller à Los Angeles et d'adapter en compagnie de Walt Disney et de ses équipes Mary Poppins. Et à partir de là, va se jouer une sorte de bataille, on pourrait dire, sur ce qu'il faut adapter, sur ce qu'il faut bouger, etc., garder par rapport au livre initial. Et Travers est absolument contre tout changement, quoi. Et on va comprendre petit à petit qu'il y a des raisons, en fait, non pas par rapport au livre, mais par rapport à son passé. Le film est entrecoupé de flashbacks de son enfance, hein. C'est Colin Farrell qui joue le père de Pamela Travers, hein. Et donc, on est, ça qui m'a assez surpris, je m'attendais à quelque chose d'assez niais quand même, parce que c'est produit quand même par Walt Disney, chapeauté par Disney, hein, la production. Hein. Et finalement, non, c'est pas du tout le cas. Progressivement, le film s'avance et on tombe dans le vrai mélodrame à l'ancienne, avec les sentiments familiaux exacerbés, la relation avec le père qui est alcoolique. C'est assez bien traité. Et surtout, je trouve que pour une production Disney, le personnage de Disney, même si c'est pas taclé, même s'il peut pas enfoncer la figure paternelle de Disney, il y a quand même des petites zones d'ombre qui sont assez intéressantes et bien emmenées sur Walt Disney. Certes, ça va pas très loin, mais pour un film Disney, c'est assez intéressant. Donc on voit Disney, certes, c'est pas montré à l'écran, mais on apprend qu'il fume comme un pompier. Gainsbourg à côté, c'était rien du tout. Il y a des petites répliques d'Emma Thompson face à Tom Hanks qui joue Walt Disney, qu'il le tacle un petit peu sur sa psychologie. Et en faisant des recherches, j'ai effectivement trouvé que Disney avait des petits problèmes d'ordre psychologique, hein, une hyperactivité, etc., qui peut s'expliquer par ses créations, etc. Et le film, pour le coup, grâce à tout ça, non seulement c'est intéressant pour le côté Walt Disney, le côté ombre de Walt Disney, qui est un personnage quand même secondaire dans le film, hein, mais ce qui est intéressant par rapport aux deux personnages, c'est la création, quoi. Comment on crée, d'où on crée, et qu'est-ce que ça implique que de passer d'un médium à un autre, de la littérature au cinéma. Et ça m'a rappelé un film en bien meilleur qui était Hitchcock dernièrement avec Anthony Hopkins.
Qui n'était pas bon du tout. Hein.
Exactement, c'était une sorte de making-of de psychose, on pourrait dire. Et là, c'est le making-of de Mary Poppins et ça marche beaucoup mieux, quoi, parce que là, il se pose vraiment les bonnes questions sur la création, justement, sur les zones d'ombre et sur pourquoi on crée. Et évidemment, c'est porté par deux acteurs vraiment, vraiment super. Donc Emma Thompson dans le rôle de Pamela Travers et Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney. Et les deux sont vraiment, évidemment, c'est des immenses acteurs, et là, ils sont vraiment taqués à des joutes verbales. Parfois, c'est très drôle, et parfois, on est vraiment ému, quoi. Enfin, toute la relation avec le père, on comprend progressivement ce qui se passe, et c'est très, très beau. Et on apprend des choses, justement, sur l'enfance de Walt Disney, qui est un enfant battu, apparemment.
Et, classique, hein,
Et en tout cas, j'ai vu quelques critiques qui défonçaient un petit peu le film. Il y a des très bonnes critiques, hein. Mais certains défonçaient un peu le film pour, en fait, avoir romancé la vérité. Moi, je crois qu'un film, c'est un film, il se suffit à lui-même. Peu importe la vérité, là, je suis là pour qu'on me raconte une histoire. Et c'est pas grave si c'est pas forcément la vérité non plus, quoi.
Oui, mais si un jour on te fait un film positif, romantique sur Hitler.
Oui, quand même pas, là, oui, voilà. Mais en tout cas, sur Disney, maintenant, ce que je rêve par rapport au film, c'est d'avoir un vrai grand biopic sur Walt Disney. Je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant vis-à-vis du personnage et vis-à-vis de sa création, quoi, et de ce qu'il en reste aujourd'hui, quoi.
Et c'est le seul réalisateur qui détient le grand record d'obtention d'Oscar, hein, parce qu'il y en a eu des Oscars pour le meilleur court-métrage, le dessin animé, etc. Il avait dans son bureau toute une vitrine
avec les
Oscars qu'il a reçus. Et même, je crois qu'il a reçu un Oscar d'honneur qui est une marche avec plein de petits Oscars dessus. Hein. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Hein.
En tout cas, on les voit toutes les récompenses. Et je trouve ça génial d'avoir confié le rôle de Walt Disney à Tom Hanks, puisque quand même Walt Disney, déjà d'emblée par rapport à ses créations de Mickey, etc., impose une certaine sympathie auprès du public. Et Tom Hanks, c'est vraiment l'acteur que tout le monde adore. Quoi. Le public reconnaît tout de suite Tom Hanks. Et je pense que c'est un très bon choix de l'avoir casté dans ce rôle-là, avec sa bonhomie, sa gentillesse. Mais aussi du côté aussi un peu cassant, un petit peu, il fait des tacles. C'est très, très intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Et bizarrement, je vous dis, je m'attendais à un truc assez cucu de la part de Disney, mais c'est assez fin, en fait. C'est assez bien traité sur l'alcoolisme, sur plein de sujets comme ça. Et j'étais vraiment ému. Vraiment, je le dis, j'étais vraiment ému à la fin du film. Et à la fin, on entend les vraies conversations. Oui. Puisqu'elle demandait qu'on enregistre vraiment toutes un peu comme Buisson, toutes les conversations entre Disney et elle pour l'adaptation. Et à la fin, on entend la vraie voix de Disney et de Pamela Travers. Non, c'est vraiment super. Ouais. Pour quiconque aime le cinéma, je le recommande vraiment.
Alors moi, je suis allé voir un film tout autre, un 300 Rise of an Empire, donc la suite.
C'est un préquel ou c'est une suite ?
Non, c'est une suite, mais le film commence 10 ans avant l'affrontement entre les Spartiates et les Perses, pour expliquer l'origine du conflit. Et en fait, c'est un Athénien, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la Grèce était constituée de plusieurs îles, petites îles, hein, donc plusieurs cités,
ouais.
Donc cité d'Athènes, cité de Sparte, etc., etc. Et donc du coup, l'origine de ce conflit, c'est un Athénien qui aurait tué le père de Xérès, et c'est ce qui aurait lancé la fameuse bataille entre les Grecs et les Perses. Alors moi, j'y suis allé parce que moi, j'avais trouvé le premier très, très drôle. Hein, si bien sûr, on fait fi de toutes les polémiques qu'il y a eu autour du film. Voilà, ces grands baraques tout blancs qui vont combattre les Perses, habillés en drag queen, soit bossus, oui, soit grimés comme des Afghans.
C'est une métaphore de Bush et face aux Afghans, aux terroristes, etc.
Le film était sorti en 2007 et bien sûr, on avait fait le rapprochement avec les faits historiques. Même si historiquement, il y a vraiment eu ça. On a les Spartiates étaient très, déjà étaient un peu à rien dans l'âme. Ils sélectionnaient les enfants dès le départ. Ils les façonnaient, ils les musclaient, ils les construisaient comme des machines de guerre, etc., etc.
Ce qui est drôle, surtout, c'est très homosexuel en fait dans le sous-texte. Quoi.
Bah, mine de rien, moi j'ai pas mal d'amis homosexuels qui ont vu le film et qui paradoxalement n'ont pas trouvé ce film si alors je sais plus quel terme on utilise pour qualifier ça, mais si homosexuel que ça.
En tout cas, à Gérard Metz, cette année, il y avait des bonnes blagues, puisqu'ils ont présenté 300, les 2-3 minutes du film. Oui. Et tout le monde faisait ouh, les Spartiates, comme ça.
Et alors, c'est drôle parce qu'avec ce film qui s'appelle 300, finalement, les Spartiates, on les voit au début et on les voit à la fin. C'est-à-dire que le conflit en lui-même oppose les Athéniens face aux Perses, qui cette fois-ci est mené d'une main de fer par Eva Green, qui interprète une Perse, mais qui est en réalité grecque. Hein, elle a du sang grec et parce qu'elle a été battue et violée. Par des Grecs, a finalement rebondi chez les Perses. Donc, situation un peu improbable. Après, c'est que c'est un scénario original hein, qui a été adapté par Zack Snyder et un autre scénariste d'après le roman graphique de Frank Miller 300. Et donc, du coup, les 300, on ne les voit pas, sauf au début, soit à la fin. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que, contrairement au premier 300, où Zack Snyder manquait un peu d'originalité dans la mise en scène, en calquant image par image, comme Rodriguez avec Sin City, les planches de la BD, là, ce nouveau réalisateur, se lâche un petit peu, filme les séquences d'action en plan caméra à l'épaule, etc., etc. C'est plutôt assez ingénieux. Et surtout, il introduit une femme. C'est-à-dire que là, la grande guerrière qui mène les Perses, ce n'est pas Xerxès, qui est donc son frère dans l'histoire, qu'on voit au début et qu'on voit à la fin. C'est elle, une Eva Green, qui est convaincante en guerrière, qui est assez attirante sexuellement parlant. Il y a une scène d'amour entre l'Athénien qui mène la troupe athénienne, la troupe grecque, et elle. Et c'est plutôt bien fait. Ce qui est original, c'est que cette fois-ci, les combats n'ont pas lieu sur la terre, les combats ont lieu sur la mer. Donc on a des reconstitutions navales plutôt bien faites. Et puis moi, je crache pas sur cette esthétique qui avait été plus ou moins critiquée à l'époque de la sortie. Hein. Moi, à titre personnel, je préfère un milliard de fois l'esthétique de 300 à un film complètement fait en motion capture. Bon, c'est un autre sujet. Hein. Malgré ça, le gros problème du film, alors je ne sais pas si c'est une volonté marketing ou autre chose, mais le film se termine au moment où les 300 Spartiates, enfin, pas les 300, les Spartiates arrivent pour combattre auprès des Grecs et anéantir la troupe perse du personnage d'Eva Green, et le film s'arrête là. Alors qu'on a l'impression qu'ils ont coupé une bobine, tu vois, ils ont loupé, ils ont supprimé une bobine de film.
On peut parler de 303.
Oui, alors est-ce qu'il faut attendre 7 ans encore pour voir une suite, je ne sais pas. Bon voilà, moi j'ai trouvé ça assez fun à regarder, comme le premier. Voilà, je trouve ça rigolo.
C'est un film du samedi soir, le premier 300. Quand tu es avec tes potes, tu te marres.
Mais c'était mieux, je trouvais, le 300, parce que vraiment, c'est ces gars, ces gros rugbyman qui gueulaient comme s'ils avaient des gros microphones dans la gorge. Waouh, waouh. Moi, je trouvais ça rigolo. Hein. Si tu fais abstraction du petit côté un peu du background de Frank Miller, qui est un fasciste reconnu, oui, oui. etc. Je trouvais ça rigolo, fun. Après, je peux comprendre qu'on soit un peu allergique à cette esthétique, cet univers. Bon, bah, très bien. À noter que c'est le grand retour de Frank Miller qui, depuis 2008, avait un peu abandonné le 7e art, car sa seule réalisation vraiment à 100%, à savoir The Spirit, avait été un gros, gros échec. Et là, il revient avec 300, qui, même s'il n'a pas touché au scénario, est imprégné de sa patte. Comme je l'ai dit en début d'émission, l'arrivée de Sin City. Donc voilà, il faut attendre encore 2007, donc 9 ans avant d'avoir un nouveau Sin City. Est-ce que c'est son renouveau? Est-ce que ça ne va pas être non plus trop démodé?
Elle est tombée sur Internet, la bande-annonce de Sin City 2, qui n'est pas terrible.
Voilà, parce que finalement, 300, regarde ça, mais rien de nouveau. Hein, c'est que c'est depuis, on a fait d'autres péplums avec cette même esthétique, donc il n'y a rien de nouveau.
Puis pareil pour le niveau du comics aussi.
Voilà, donc c'est fun. Hein, ça aurait pu être un direct tout DVD qu'on aurait pu voir entre potes avec une bière et des pizzas. C'est pas dégueulasse à regarder, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, c'est si vous êtes fan, allez-y, sinon vous pouvez vraiment passer votre chemin.
Ok, ça marche. Et ben, on écoute un morceau de musique et on se retrouve après pour le débat duel du jour.
Only a boy, only a boy, only a boy. entretien.
Deuxième partie du conflit en cinéma, on va donc, ça va être le moment du duel, débat, un petit peu discussion, on va dire aujourd'hui, tranquillement. Duel gentil. Quoi.
Oui, on est assez d'accord avec Hakim, je pense, sur le film, de toute façon.
Ouais, c'est...
Alors, qui c'est qui attaque?
Tu veux que je fasse le pitch, du coup?
Ouais, il sait mieux retenir que moi les noms historiques, hein, donc par peur de décorcher certains noms, je te laisserai faire le pitch.
Allez, bah, alors, nous sommes dans le film Diplomatie, oui. Donc le nouveau film de Volker Schlöndorff, le 24 août 1944. Paris est, ma foi, en proie à la percée des alliés face aux nazis dans la capitale. Et le général von Scholtitz, donc, qui est le gouverneur de Paris sous le régime nazi, qui séjourne... Le
gouvernement de l'armée allemande.
Voilà.
Et il venait de se faire nommer par le Troisième Reich.
Donc il réside dans le film à l'hôtel Maurice, donc rue de Rivoli, à Paris. Et le début du film commence par un plan donc, du général et de ses hommes pour en fait, détruire les principaux ponts de Paris, les principaux monuments, pour engloutir Paris sous la Seine et en fait, détruire, d'après un ordre d'Adolf Hitler, de détruire Paris après le départ des Allemands, après leur défaite, après leur capitulation.
Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Berlin est en ruine, Hambourg est en ruine, plein de villes étaient en ruine, et Hitler, qui était venu qu'une seule fois en France, une fois que la France était occupée, pour lui, c'était vraiment une magnifique ville. Il voulait absolument que le nouveau Berlin ait une architecture aussi belle, voire mieux. Et donc, du coup, vu que son Berlin, lui, était en ruine, lui, sa phobie, ce qui lui est venu d'un coup, c'était de détruire, de raser Paris. Hein, voilà, on a tout à perdre, donc on rase Paris. Voilà,
puisque Berlin n'existera jamais, voilà. Paris non plus. Quoi.
Et plus particulièrement l'opéra, qu'il trouvait joli. Et s'il y a bien une chose qu'il ne voulait plus revoir sur Terre, c'était l'opéra.
Et donc, dans cette fameuse nuit du 24 au 25 août 1944, hein, là où Paris va donc tomber aux mains des Alliés, le consul de Suède, Raoul Norling, donc, qui a vécu toute sa vie à Paris, se rend à l'hôtel Maurice pour convaincre le général Scholtitz de ne pas faire, ne pas commettre l'irréparable, de ne pas détruire Paris, puisque ça va tuer des millions de personnes de toute façon. Hein.
On ne verra plus d'enfants dans les parcs.
On ne verra plus le dôme. Et à partir de là, va se jouer une bataille, un face-à-face entre les deux hommes, une joute verbale, hein, parce que le film est adapté d'une pièce de théâtre à la base, hein, et qui va durer sur quelques heures, sur cette fameuse nuit où tout va basculer finalement. Donc le film, comme je l'ai dit, est une adaptation théâtrale. Hein. On pouvait reprocher au film comme ça un peu d'emblée, avant même d'y aller, peut-être une certaine théâtralité, hein, ce qui n'est pas le cas, tu pourras le dire après à Kim, je pense. Hein. Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est assez bien filmé, il y a quand même des belles tentatives de mise en scène, notamment l'apparition de Norling au début derrière une vitre en fond de teint comme ça, sans teint, voilà, donc c'est assez joli, assez bien pensé. Le face-à-face, évidemment, tient évidemment toutes ses promesses. Hein. Nils Haristrup dans la peau du général allemand et évidemment le grand Dusselier dans la peau du consul. Hein. Donc là,
les deux meilleurs acteurs français.
Oui, ouais, là, ils sont vraiment au taquet, les deux. Ils sont vraiment extraordinaires. Justement, Haristrup dans l'allemand, dans l'accent, comment il l'utilise.
Alors attention, il est doublé. C'est pas sa vraie voix en
allemand. Ah bah ça marche vachement bien, tu vois, j'ai vraiment cru.
Donc tu le sens un petit peu. Bon, il est danois, enfin il est français d'origine danoise, il avait appris le corse pour un prophète.
Oui, là, oui, c'est pour ça que je me suis dit...
Il y a quelques plans où, d'ailleurs ses premières répliques quand il est sur le balcon, où il parle vraiment allemand, il y a quelques dialogues très courts où il le parle lui-même, mais pour les grands dialogues où il parle avec ses officiers en allemand, il est doublé.
Ça passe bien alors. Bah,
passe bien. Puis bon, des fois il parle avec un accent.
L'emploi de l'accent marche, oui, très bien, je trouve. Oui.
Ça ne semble pas à vos affaires.
Il parle un très bon français avec un léger accent, ça marche très très bien. Et Dusselier, je trouve, au début du film, ce qui m'a assez surpris, utilise beaucoup l'humour. Y a beaucoup d'humour au début du film, les joutes verbales passent beaucoup par ça, et on comprend pas en fait la folie de Scholtitz au début. L'homme veut détruire Paris, c'est un soldat respecté, respectable, il a toujours accepté les ordres, il a toujours fait ce qu'on lui a demandé de faire, et on sent quand même derrière ça, il y a une carapace, qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et là, ça devient intéressant pour le coup. Mais moi, ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est à peu près le seul bémol, d'une, que c'est trop court. C'est un peu trop court. Moi,
1h24, le film.
Moi, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire et ces périodes clés, comme ça, c'est très intéressant. On peut dire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Donc, le film est très, très court. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il s'étale sur même plusieurs jours, peut-être, voir un peu ce qui se passe après, puisqu'à la fin...
Ce qui était vrai dans la réalité, ça ne s'est pas passé en une nuit, ça s'est passé sur 4 jours.
Voilà, oui. Donc, il y a un petit procédé narratif. Et justement, puisque tu parles de ça, le procédé narratif m'a un peu... m'a un peu déçu, un peu comme toi à l'époque avec Carnage de Polanski, hein, tu disais que c'était un peu mécanique justement les arrivées et les départs de l'appartement. Bah, c'est un peu la même chose, je trouve. L'arrivée de Norlin est assez belle, je trouve, visuellement. Je trouve que sur le papier, elle est assez bizarre quand même. Il atterrit comme ça, comme un fantôme, hein, presque, hein, sans vouloir révéler un peu les tenants, les aboutissants du film. Hein. Et par la suite, il part plusieurs fois, à chaque fois, le général SS le ramène dans l'appartement, alors que finalement, il est en position de force. Il y a des pièces comme ça qui m'ont un peu surpris. Quoi. C'est...
Alors, il faut préciser que c'est une pièce de théâtre écrite par Cyril Gély. Donc il a participé à l'écriture du scénario avec Volker Schöndorff. Et donc du coup, et comme tu dis, finalement, on sent pas tant que ça la patte du théâtre filmé. Hein, on nous évite les plans larges, etc., etc. Il y a beaucoup moins de caméras, des contre-plongées, quelques petits gros plans.
Et puis, belle photo.
Et le jeu des acteurs fait que voilà, on est quand même dans un vrai film de cinéma. Moi, j'avais entendu beaucoup de mauvais retours auprès des personnes qui avaient vu le film en avant-première à l'Institut Lumière, en disant comme quoi finalement Dussolier, Nina Ristrup n'arrivait pas à s'approprier les personnages et qu'il faisait du Nina Ristrup et du Dussolier. Moi, je ne trouve pas, malgré le fait que par moment Nina Ristrup soit doublée, je trouve qu'il arrive vraiment à se rentrer dans la peau du personnage. Après, le film, on l'a pas précisé, peut-être qu'on en parle un peu plus en troisième partie. C'est le recto ou le verso de Paris Brutil de René Clément, qui lui racontait sur 3 heures comment les résistants et les alliés reprenaient Paris, alors que là, on est à l'intérieur des bureaux et on voit la négociation.
C'est très intime.
Voilà. Non. Et dans le film de René Clément, Paris Brutil, le film commence sur ce général-là qui est reçu par le Troisième Reich et qui lui donne l'ordre de détruire Paris. Et dans ce film-là, on sentait vraiment que le général y allait vraiment à reculons, qu'il n'était pas tout à fait d'accord, qu'il comprenait que la situation était grave et qu'il avait affaire à une personne complètement folle et complètement à 10 milieux de la réalité.
On trouve ces entretiens en 64, je crois, où Scholtitz s'explique un petit peu et dit qu'Hitler était complètement fou.
Et quand on comprend un peu qu'on connaît un peu le background du général, on a un peu plus de facilité à comprendre qu'il est finalement il a réussi à se faire un peu embobiner assez facilement avec le personnage de Dussolier. Dans la réalité, c'est pas passé en une nuit, ça s'est passé sur plusieurs jours. Et puis voilà, je crois que tu as à peu près tout dit ce que je pense du film. Voilà, je trouve qu'il a réussi. Volker Schöndorff est le plus allemand des est le plus francophile des Allemands. On comprend vraiment très bien qu'il adore Paris, que Paris pour lui c'est la cité rêvée. Par moments, on tombe vraiment dans le clip promotionnel pour la ville de Paris, hein. Ses enfants dans ses parcs.
Mais on la voit pas tant que ça quand même.
Et puis le dernier plan sur la Seine,
avec les bateaux mouches,
le métro. Par moments, on est dans la carte postale. Bon. Mais comme tu l'as dit, j'aurais bien voulu que le film s'étende un peu plus, qu'on creuse un peu plus la psychologie des personnages, hein, surtout qu'on les aime ces acteurs, on aurait voulu rester un peu plus longtemps avec eux dans cette
parce qu'il y a des motivations aussi personnelles, le général, on comprend qu'il est lié, quoi.
Voilà. Et puis bon, c'est un gars qui est un peu comme tous les nazis à cette époque-là, qui était partagé entre l'amour de la patrie, la confiance qu'il avait mis envers le Führer et sa famille personnelle. À un moment où on sait que la fin de l'Empire nazi est imminente, que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et que là, qu'on va passer au règlement de compte. Et donc voilà, il arrive à nous rendre sympathique ce personnage-là.
Exactement, oui. Une humanité chez les nazis aussi.
Et on comprend que finalement, oui, dans sa vraie vie, il était comme ça. C'est comme Schindler. Je veux dire, il y a des Allemands, qui étaient sous le régime nazi qui, au fil des années, ont compris qu'ils étaient dans la mauvaise posture et donc du coup, ont changé de cap. Et donc cette sympathie envers ce personnage-là n'est pas si dangereuse que ça. C'est tout à fait légitime.
Et puis tu as autre reproche, un tout petit reproche, hein, parce que c'est vraiment un film qui m'a plu quand même. Hein. La fin, je ne sais pas trop si Dussolier, j'ai pas trop compris, je t'avoue, si Dussolier manipule vraiment du coup le général, s'il se joue de lui, ou s'il est vraiment sincère dans sa démarche.
Dans la pièce de théâtre, ça n'avait pas lieu. Je pense vraiment qu'il est, il est membre du consulat suédois, parce que bon, il est né en France, mais ses parents étaient suédois, ils ont immigré au début de la Seconde Guerre, Première Guerre mondiale, je ne sais plus quand. Et donc du coup, il était historiquement, c'était vraiment le consul de Suède en France. Mais oui, je pense que voilà, il joue. Hein. Il y a une magouille, il y a une mise en scène, une manipulation. Elle est claire. Je me suis posé la question effectivement au début, parce que je me suis dit si on est dans un cas de manipulation. l'intrigue tombe à plat. Mais en y réfléchissant, c'est tout à fait logique. C'est, voilà.
Bon, qu'il soit honnête, entre guillemets, ou sincère par rapport au général.
Oui, je pense que oui.
Moi, je t'avoue, le doute m'a un peu habité à la fin du film, même s'il y a un carton qui explique un petit peu tout ce qui se passe après, heureusement. Mais voilà.
Non, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Sauf que c'était trop court, effectivement.
Enfin, je pense que c'est aussi pour les passionnés d'histoire. C'est vraiment une période clé, charnière, et puis, puis un épisode très intime qui n'est pas assez connu. Et pour le coup, ça devient vraiment intéressant et passionnant. Quoi.
Voilà.
Ok, bah on va écouter une nouvelle chanson et on se retrouve ensuite justement pour parler un petit peu alors à la fois des films qui ont été faits, réalisés pendant la période de l'occupation et aussi les films qui ont été faits bien sûr après sur ces périodes de résistance et d'occupation.
L'entretien.
Alors, dernière partie de Confluence Cinéma. Pour aujourd'hui, on va donc revenir justement sur ces fameux films, alors soit qui ont été faits pendant l'occupation, soit qui ont été faits sur l'occupation. Alors, on commence par quoi, messieurs ?
Alors, je pense que c'est bien de commencer par les films qui ont été faits sous l'occupation, car pendant l'occupation allemande, il y a des films qui ont été réalisés, et pas par n'importe qui, par les Allemands. Il faut savoir que Joseph Goebbels, une fois arrivé, donc, était le ministre de la Culture, de la propagande nazie, une fois Paris envahi, va instaurer une maison de production qui s'appelait La Continentale, bon, qui est une production française, mais qui travaille en relation avec les Allemands et avec Goebbels. Et donc, du coup, beaucoup de films vont être tournés sous cette production.
30 films, je crois, qu'on
quelque chose comme ça, dont, sur 4 ans, ce qui est finalement peu, mais dont les deux premiers films de Clouseau, L'assassin habite au 21, je crois que c'est ça.
C'est ça, oui.
Et Le Corbeau. Paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que Le Corbeau traite justement de tout ce qui était les dénonciations par courrier, etc., etc. Donc, un film produit par des Allemands, mais qui dénonce justement.
Donc, c'est assez malin, quoi.
Donc, c'est assez malin. Il y a également deux films de Maurice Tourneur, donc le père de Jacques Tourneur, qui vont être réalisés, et aussi Simplet de Fernandel. Alors, il faut savoir que une fois la libération, bon, il n'y a pas que qui ont réalisé des films, il y a d'autres réalisateurs, mais dont les noms me disent rien. Une fois que la libération va arriver, ces réalisateurs vont être blacklistés un certain temps, voilà, pour avoir gros, collaboré avec l'ennemi, comme certaines personnes, comme Jean Cocteau, qui finalement n'a jamais pris position, qui est resté à Paris, mais qui n'a jamais pris position et qu'on soupçonne d'avoir eu quelques relations avec les Allemands. Mais d'autres personnes, comme Jean Gabin, qui vont littéralement partir de la France, pendant que l'Allemagne va.
Enfin, c'était sur la fin, ça, quand même, qui est devenu soldat français, ça part de 1943 voilà. Seulement, qu'il a rejoint l'armée américaine. Voilà. Ce serait l'un des premiers, justement, à être rentré dans le nid d'aigle d'Hitler en Autriche, justement.
Ouais. Mais voilà, toutes ces personnes-là ont eu du mal à se faire pardonner une fois la seconde guerre mondiale terminée. Et juste. Après la libération, 2 ans plus tard, en 1946, il y a un film qui s'appelle « La bataille du Rail » qui va être réalisé par René Clément, qui lui va parler de la résistance, vraiment comment, dans quelles circonstances les résistants travaillaient, et surtout comment ils détruisaient les lignes de train. Donc ça va être « La bataille du Rail », ça va être un film sur les détournements de wagons, sur les sabotages de lignes de chemin de fer. Et c'est un film qui va sortir en 1946, qui va tout de suite être retiré de la salle. Pourquoi ? Parce que en 1946, au même moment, il y a le combat en Indochine entre l'armée française et les indépendantistes. Et les indépendantistes utilisaient les mêmes moyens pour détruire les chemins de fer français. Mais ce film va gagner le Grand Prix et le prix du jury du tout premier Festival de Cannes. Donc, gros succès. Et René Clément, par la suite, quelques temps plus tard, va réaliser un autre film très important sur, l'occupation et qui... pratiquement le même sujet que Diplomatie qu'on vient d'évoquer, c'est Paris Brutil. C'est une grosse production, c'est une coproduction France-États-Unis, un peu plus américaine.
Alors
que française.
Je vais revenir un petit peu quand même pour les auditeurs.
D'accord, ok.
Parce que là, on est parti un petit peu ailleurs. Mais pour revenir un petit peu quand même sur la situation du cinéma sous l'occupation, il faut savoir quand même que le cinéma, à ce moment-là, est devenu un genre hyper populaire. La France entière va au cinéma, y compris les classes populaires d'ailleurs. Et du coup, là où les Allemands jouent bien le coup, c'est qu'ils se disent, plutôt que de tout envoyer valdinguer, on va justement créer la Continentale pour encadrer un petit peu, mais on va laisser faire la production cinématographique. Parce qu'il y a eu quand même plus de 200 films. Il y a eu 30 films par la Continentale, mais il y a eu plus de 200 films qui ont été faits pendant l'occupation, ce qui est quand même pas mal pour cette période. Et là où les Allemands vont être assez malins, c'est qu'à la fois, il va y avoir la double censure Vichy-Berlin un petit peu pour tous les films qui sortent à cette époque-là. Mais en même temps, ils vont quand même... Alors, des fois, ils vont se faire rouler un petit peu par les réalisateurs. Ils ne vont pas voir que derrière, il y a un message et tout. Mais ils vont laisser aussi faire, histoire de ne pas se mettre non plus le peuple français à dos. Et voilà, il va y avoir... Tu en as parlé de quelques-uns des films. Moi, je voudrais en rajouter parce qu'il y a quand même des films assez énormes. Il y a des films de Pagnol qui sortent à ce moment-là. Mais il y a surtout, moi, ce que je trouve vraiment qui est un véritable chef-d'œuvre qui va sortir juste à la fin de l'occupation... mi-44, c'est quand même Les Enfants du Paradis, quoi, qui est un immense film de Marcel Carnet écrit par Jacques Prévert. Juste avant ça, ils avaient même réalisé pendant l'occupation Les Visiteurs du Soir. C'est quand même deux films qui sont ultra importants dans l'histoire du cinéma français. Et ça a été fait pendant l'occupation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas voulu partir aux États-Unis, qui ont voulu continuer à faire du cinéma, mais du coup, pour essayer d'échapper à la censure, qui ont décidé de faire des adaptations, en fait, de grands romans. Donc, il y a le Comte de Monte Cristo, notamment. Il y a eu le Père Goriot. Il y a eu plusieurs livres de Zola ou de Victor Hugo qui ont été adaptés comme ça. Où, du coup, comme ça, c'était simple d'à la fois faire du cinéma, de ne pas être emmerdé par les Allemands, et en même temps, de pouvoir continuer quand même à faire passer des messages et quelque chose. Enfin, voilà, c'était juste pour conclure sur cette période vraiment de création du cinéma pendant l'occupation et la résistance, parce que c'est vrai que c'est marrant, parce que c'est un moment à la fois hyper difficile pour les Français, hyper quand même compliqué à analyser, et en même temps, c'est un grand moment de cinéma aussi, où il y a vraiment un essor de grands réalisateurs et de films. Donc on revient maintenant sur la libération de Paris.
Oui, fait par les Américains, par justement... En fait, c'est Daryl Zanuck, un patron de la Fox, qui voulait réitérer le grand succès d'un jour le plus long, qui lui était sur le débarquement en Normandie, et qui voulait raconter la grande fresque de la libération de Paris par les Alliés, par les résistants. Donc la même histoire que Diplomatie, sauf sur le terrain. Donc on commence le film avec la rencontre Dietrich von Scholtitz, voilà, qui rencontre le Führer, où on voit effectivement qu'il lui annonce qu'il faudra séparer, et on comprend sur les traits de son visage que voilà, il va le faire à contre-pied, qu'il n'est pas tout à fait sur la longueur d'onde. Et là, c'est une grosse production avec plein d'acteurs, Delon, Belmondo, Kurt Douglas, Orson Welles, etc., etc. Puis voilà, c'est un gros succès fait par René Clément. Et donc ça, c'est dans les 60, je crois que c'est 66 le film. D'ailleurs, le film est tourné en noir et blanc parce qu'à l'époque...
Il y a la chanson aussi qui est quand même fameuse, quoi.
T'as connu, tu la chantes ?
Non,
le film est tourné en noir et blanc parce qu'à l'époque, il était interdit, je crois que c'est même toujours le cas maintenant. Enfin non, vu que le film de Wolfgang Schönlof, c'est plus le cas. Mais ils ne voulaient pas mettre des drapeaux nazis à Paris. Donc du coup, ils ont mis des drapeaux nazis, mais en noir et blanc. Donc voilà pourquoi le film était tourné en noir et blanc. Et donc, on est en 1966. Trois ans plus tard, il y a un film qu'on a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de l'année, qu'on aime tous ici,
oui, c'est
l'armée des ombres.
Encore mieux d'y revenir. Oui.
L'armée des ombres de Melville qui lui montre un peu le côté noir de la résistance, toutes les trahisons, toutes les exécutions sommaires au sein de la résistance, parce que lui y était, donc il parle de son vécu. Et dans la même période de l'année 60, on va voir un autre genre qui va toucher le film sur l'occupation, c'est la comédie, avec une comédie ultra populaire qui fut La Grande Vadrouille, qui lui va pulvériser les records juste avant l'arrivée des ch'tis. Et ça, je crois que Raphaël, tu veux en parler.
Bah oui, puisque c'est quand même important, quoi. C'est un film qui fait 20 millions d'entrées, donc forcément, un sujet un petit peu qui a touché tous les Français, quand même, on est encore assez proche, on est 20 ans après, qui a touché quand même pas mal de Français, et faire un film, entre guillemets, populaire sur la Seconde Guerre mondiale avec un tandem d'acteurs vraiment très populaire, parce que je trouve ça quand même assez osé à l'époque, quoi. Et après, beaucoup de comédies vont jouer là-dessus, avec Bourville, par exemple, il y a Le Mur de l'Atlantique, par exemple, après, ou d'autres trucs, certes beaucoup plus drôles, qui, enfin, c'est juste un prétexte aussi pour pas mal de comédies. La Septième Compagnie, la trilogie, hein, les trois films de Robert Lamoureux, donc c'est quelqu'un aussi un peu d'incisif, Lamoureux.
Donc là, c'est plus des films sur militaire, enfin sur ça fait longtemps que je ne les ai plus vus, mais on n'est pas sur le thème de l'occupation, je veux dire, c'est pas...
Disons que, ouais, ces compagnies, c'est vraiment sur l'arrivée des Allemands, la défaite, justement, en trois semaines de l'armée française, et on voit justement une bande de bras cassés, quoi. Au fond, c'est vraiment une critique de ça aussi, quoi.
Il y a eu un moment, je pense, où il y avait besoin aussi pour les Français d'exorciser un peu cette période,
c'est ça, ouais.
Et de rire autour de ça, quoi.
Donc le conflit algérien venait de se terminer, enfin 66, bon ça faisait déjà 4 ans.
Mais on est encore un peu dedans quand même.
On est un peu dedans.
Mais je trouve qu'il y a un film qui est très important aussi de ça, qui va vraiment pour le coup se moquer là. Toute une tradition, c'est Papy fait de la résistance.
Un de mes films préférés.
Là, c'est une autre génération.
Et là, on parodie vraiment le demi-frère. Il y a Villeray qui joue le demi-frère d'Hitler, Thierry Lhermitte qui joue le rôle d'un caporal-chef hilarant, super résistant.
Mais tout le monde passe à la moulinette. Et surtout la résistance quand même. C'est quand même fait par le Splendide. C'est une génération qui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Clavier, Michel Blanc, Junio, etc. Et eux, pour le coup, ils en ont rien à foutre de toutes les traditions. Des films comme comme La Combe Lucien, qui est un grand film sur les résistants, même L'Armée des Ombres, même s'il est un peu plus sombre sur le sujet, eux, ils vont passer tout ça à la moulinette. Et d'ailleurs, le film s'inscrit dans la tradition de De Funès, puisque le film est dédié à la mémoire de De Funès.
Il devait jouer le rôle de Galabru.
Il y a trois versions, ce sera un peu long à expliquer, mais il y a eu plusieurs versions sur. Il devait jouer aussi, par exemple, un grand-père qui vit dans une tranchée, parce qu'il a vécu la Première Guerre mondiale, lui. Et là, pour le coup, ça permet tout, quoi. On n'avait jamais vu ça. Et, et c'est un film, je pense, qui a vraiment fait époque avec beaucoup de moyens aussi. C'est un film qui a coûté énormément cher, hein, avec cette tagline, le film qui a coûté plus cher que le débarquement à l'époque. Mmh. Et c'était un gros, gros, gros succès. Et après, je pense que ça aussi, bizarrement, même si c'est une comédie un peu poète-poète. Hein,
c'est comme des nazis qui dansent sur du Rollo Iglesias.
Oui, ça se permet tout, à toutes les outrances. Toutes les outrances sont là, mais je pense que bizarrement, c'est aussi ouvert la voie à un film comme Inglourious Basterds plus tard, bizarrement. Mmh. D'ailleurs, Inglourious Basterds dans les mauvaises critiques, dès que c'était du sous-papier fait de la résistance. D'ailleurs. Je me rappelle les papiers en dehors de Cannes, c'était à peu près ça. Et Tarantino, lui, je trouve, pour le coup, était assez transgressif aussi sur le sujet, puisque lui, il fait la même chose aux nazis.
Sauf que lui est américain, il a jamais.
Oui, oui.
Il est vraiment pas ancré dans cette histoire d'occupation. Donc
oui,
c'est encore,
mais lui, ça s'inscrit justement dans la logique cinématographique, oui. Je veux dire, par rapport à l'occupation et. Justement, il parle des films de Riefenstahl, toutes ces traditions aussi du cinéma allemand.
Etc.
Il parle du corbeau, etc. aussi. Mmh. Et pour le coup, il fait aux nazis ce que les nazis ont fait aux juifs. Mmh. Quoi. Et bizarrement, c'est passé comme lettre à la poste. Quoi, le film d'une autre personne, ça aurait provoqué un tollé, un tabou général.
Alors avec le temps aussi, c'est ça, on peut conclure un petit peu là-dessus aussi. C'est que les années 90-2000, il y a aussi des nouveaux films un petit peu sur la résistance, sur l'occupation. Aussi peut-être anglais différemment. C'est-à-dire, moi je pense par exemple au film de Guédiguian qui s'appelle L'Armée des Ombres aussi. L'Armée du Crime, pardon. Sur la bande de Manoukian.
C'est ça. Ouais.
Donc qui sont un petit peu les apatrides et tout ça qui se rebelle. Il y a aussi un film sur un petit peu la répression sur les gitans
Liberté
de Gatliffe
avec Marco Lavoine.
Il y a eu quelque chose
Lucie Aubrac aussi sur la résistance de Claude Berry.
Mais c'est vrai qu'on est arrivé à une époque où on les scrutait misérables. Différemment un petit peu la résistance, l'occupation. On était peut-être moins aussi dans quelque chose de manichéen, voilà, les bons contre les méchants, mais quelque chose de plus trouble, parce qu'il faut quand même bien se dire, pour faire un petit retour historique, que ce qu'on nous a appris à l'école, enfin, il y a quand même un tissu de conneries aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ni bons ni méchants, c'est-à-dire qu'ils ont été à des moments avec les collabos, des moments avec les résistants, etc., etc., et que c'était pas si simple.
Et qu'il y a des Allemands qui à la fin ont dit, bon, là, on fait n'importe quoi, donc on va faire autre chose, comme Schindler, comme justement tout le monde, à un moment donné, ont retourné leur veste parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient manipulés et qu'il fallait changer la chose.
Et c'est vrai qu'au niveau cinématographique, on voit, je trouve, une évolution qui va soit zoomer sur des petites histoires dans la grande histoire, mais aussi avoir un regard quand même assez différent sur cette période qui n'est pas inintéressant, justement, quoi.
Et justement, un film qui est très populaire, c'est Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot, qui pour le coup était vraiment dans le trou, puisque c'est un collabo joué par Gérard Jugnot qui va aider progressivement des enfants juifs à sauver leur peau. Quoi. Et je trouve qu'à réussir ça dans un film assez populaire, dans cette période trouble, où chacun, on sait plus où la frontière finalement entre le bien et le mal, c'est assez bien tenté, assez bien vu pour l'époque.
Après, il y a un sac de billes, non, mais il y a quand même des grands films. Oui. De toute façon, il nous faudrait des heures pour en parler. Au revoir les enfants, qui est quand même un chef-d'œuvre de Louis Malle, quoi, qui est quand même un film vraiment très beau. Enfin, il y a vraiment tout un tas de films. C'est une époque, je pense, qui...
Et la télévision, maintenant, prend aussi le relais. Il y a Un Village Français, la série télé de France 3, d'ailleurs, qui est assez bien traitée, où chaque saison reprend une année de l'occupation. Il y a des vraies tentatives, quoi, même à la télévision. Il y a aussi, je crois, 93 rue Lauriston à la télévision avec Michel Blanc et... comment il s'appelle ? Samuel Le Bihan, qui parlait justement de la Gestapo, comment la police française a collaboré justement avec l'armée allemande, les interrogatoires, les tortures, enfin, vraiment des choses assez osées quand même.
Ok, bah écoutez messieurs, merci beaucoup sur ce petit zoom un petit peu sur les films de l'occupation et sur l'occupation. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un Confluence Cinéma. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau au programme
On restera un peu sur la Seconde Guerre mondiale parce que le nouveau film de George Clooney, Monument Man, sort aujourd'hui. On l'aura vu pour la semaine prochaine. Sauf que là, on parle justement de toutes ces œuvres d'art qui ont été volées et pillées par les nazis justement à la fin du conflit. D'ailleurs, diplomatie, on parle un petit peu. Hein.
Oui, oui, oui. Enfin, et moi, j'aimerais quand même beaucoup traiter Trou Détective, quand même, parce que...
Alors on verra, ça
tout le monde en parle.
Pour parler entre nous, on verra.
Mais sinon, il y a le
nouveau... Nos auditeurs, en tout cas, je leur conseille Trou Détective, bien entendu, c'est une des séries les plus géniales
Et il y a le nouveau Spike Jonze, surtout. R, avec Joaquin Phoenix, qui est très attendu.
Qui a de bons retours, oui.
Ok, ben, bonne semaine à vous, et à très bientôt.
À bientôt.